Il est 11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, nous allons partir en voyage. Bonjour Célestine.
Bonjour.
Alors, où nous emmènes-tu ?
Aujourd'hui, je vais vous emmener sur le continent asiatique. Donc, le continent asiatique est composé de 48 pays, 41 proprement asiatiques et 7 eurasiens. Quand on pense à l'Asie, on pense presque instantanément au Japon ou encore à la Chine. Pourtant, l'Asie est composée de plein d'autres pays dont la culture est emblématique. On peut parler par exemple de l'Arménie, de la Birmanie, de la Thaïlande. Voilà. Aujourd'hui, j'ai demandé à Mario Dravé de venir nous rejoindre.
Bonjour.
Bonjour. Mario Dravé travaille à l'association Aux Quatre Vents.
C'est ça.
Et je vais la laisser se présenter.
Eh bien, bonjour à tous. Merci pour l'invitation dans cette émission. Donc, je m'appelle Mario Dravé. J'enseigne la danse dans l'association Aux Quatre Vents. Alors, la danse surtout, mais d'une manière générale, les cultures étrangères. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde, de parcourir de nombreux pays, dont des pays asiatiques dont je vais vous parler aujourd'hui avec Célestine. Et voilà, je fais pas en fait partager la culture de ces gens qui habitent loin. Parfois on a des préjugés sur l'Asie, parfois ils sont justes, parfois ils sont pas justes, mais des fois il y a des préjugés qui sont justes. Et puis bah, ça va être l'occasion d'échanger sur plein de thèmes pendant cette heure ensemble.
J'ai une première question du coup à vous poser. J'ai lu sur votre site internet que vous avez visité 25 pays.
Oui, alors depuis, il faudrait que je mette à jour, c'est un petit peu plus, maintenant c'est 33.
Ok, d'accord.
on a augmenté le nombre, mais effectivement, j'ai visité 33 pays de la planète, alors pas tous en Asie, hein, dans les 33. C'était 33 pays répartis sur tous les continents du monde, donc voilà.
Du coup, je voulais en profiter pour vous demander, c'est une question un petit peu difficile, mais quel avait été votre voyage préféré ?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, chaque pays est si différent, que ce soit au sein de l'Asie et encore plus si on prend le monde entier, chaque pays est si différent. Il a sa propre culture, il a sa propre dynamique, son propre groove, j'ai envie de dire. Et c'est difficile d'en choisir un. Et puis, dans chaque pays que j'ai traversé, j'ai été reçue par une ou plusieurs familles. J'ai vécu avec eux, j'ai été logée par eux, nourrie par eux, j'ai partagé leur quotidien. Et franchement, je pourrais pas dire que je préfère une famille plus que l'autre. En fait, mon voyage, c'est pas un voyage touristique où je visite tel pays et je me dis « Ah, les monuments sont plus jolis ici et la nature est plus belle là ». Non, c'est la rencontre avec des gens, c'est la rencontre avec une culture et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Chaque culture a ses côtés positifs, ses côtés négatifs, mais en tout cas, elles sont toutes intéressantes parce qu'elles sont toutes différentes. Voilà.
D'accord. Et du coup, 33 pays, donc 33 peuples.
Alors un peu plus que 33 peuples, c'est une bonne question parce que je dis souvent 33 pays et les gens sont contents et je suis contente que vous posiez la question, mais c'est 33 pays mais c'est plus de peuples. Je pense par exemple à l'Inde qui compte comme un seul pays, mais en Inde j'ai vécu au Rajasthan avec des nomades dans le désert, j'ai vécu avec une famille riche à New Delhi, j'ai vécu dans l'Himalaya au Ladakh avec une famille bouddhiste et j'ai vécu dans le sud de l'Inde à Goa avec des étrangers expatriés. Donc vous voyez déjà ça fait vraiment quatre styles de vie complètement différents mais c'est vrai que j'ai toujours je suis allée en Inde. Et souvent les gens disent « Ah d'accord !» Mais en vrai, oui, dans chaque pays, il y a parfois plusieurs peuples qui se cachent. Ou je repense aussi en Afrique du Sud, alors c'est pas le thème de l'Asie, mais je dis quand même en Afrique du Sud, j'ai vécu avec des Blancs, j'ai vécu avec des Noirs, hein, disons-le comme ça, comme c'est, parce qu'eux-mêmes se nomment comme ça. Il y a les Blancs, les Noirs et les Coloreds. Donc c'est ceux qui sont ni Noirs ni Blancs, qui sont soit métistes, soit qui sont d'une autre origine, soit par exemple indiens, il y a une grosse communauté indienne. Là aussi, j'ai eu la chance de côtoyer différents peuples, des Blancs, des Noirs, des Coloreds, et de vivre avec eux.
D'accord. Est-ce que vous avez des fois vécu dans des conditions difficiles ?
Oui, Oui. J'ai parfois vécu dans des conditions idylliques et parfois dans des conditions très difficiles. Mais les conditions difficiles, pour moi, c'était surtout, enfin, ce que j'ai ressenti, moi, comme conditions difficiles, c'était d'abord des conditions sanitaires difficiles. Tout à l'heure, je parlais de vivre avec les nomades dans le désert. Ça fait waouh, ça fait rêver. Mais la réalité, c'est pas d'eau courante, pas d'électricité, de la poussière partout, parce que quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas laver les vêtements ou les couvertures sur lesquelles on dort souvent, voire jamais. Et tout ça, je me souviens que les couvertures dans le désert, ben, le matin, on les plie et on les pose par terre dans le sable. Donc le soir, quand vous les dépliez, respirez tout le sable et toute la poussière qui s'est accumulée. Il y avait des rats qui couraient parmi les plats et dans les maisons. Donc ça, par exemple, c'est des conditions difficiles. D'autres conditions qui pouvaient être difficiles, ça pouvait être des conditions climatiques. Mais c'est un petit peu plus endurable pour moi, à titre personnel, hein, que les conditions sanitaires. Pour moi, les sanitaires, c'était le plus difficile, mais je l'ai fait parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. Les conditions climatiques, c'est un autre type de problème. Là, dans l'Himalaya, on est à moins 25, pas de chauffage la nuit dans les maisons. Donc voilà, ça c'est c'est sympathique aussi. Il faut aussi vraiment s'imaginer que quand j'étais dans l'Himalaya, au Ladakh, je dormais avec deux pantalons l'un sur l'autre, plusieurs couches de pull, mon anorak, mon bonnet, mes gants et quatre couvertures épaisses posées au-dessus de moi. Et quand j'arrivais à m'endormir, au bout d'un moment, je me retournais et là, on se retourne sur l'oreiller glacé et on se réveille et on redort pas. Donc ça, c'est des conditions difficiles. Ou en Mongolie, c'est un autre type de conditions difficiles. En Mongolie, le climat a la particularité de changer tout le temps. En fait, la Mongolie, c'est le pays. Alors, est-il asiatique ou pas? Certains disent oui. Moi, je dis non parce que c'est pas du tout la même culture. Mais c'est le pays qui a le plus grand écart de température. Peut y avoir jusqu'à 80 degrés d'écart de température. Et je me souviens que certains matins, je sortais de chez moi. Alors, j'étais au mois de avril à peu près. Je sortais de chez moi le matin, 16 degrés. Oh bah tranquille, du coup, juste un petit pull, une petite veste, ça allait. 2 heures plus tard, il neigeait des flocons gros comme mon poing. Et 2 heures plus tard, il refaisait 16 degrés, et après, re les flocons. Et ça, je vous jure, c'est épuisant. Épuisant. Donc ouais, ça, c'est aussi des conditions difficiles. Et puis la dernière condition difficile, mais que j'avais choisie, pour le coup, bah, c'est d'être avec des cultures étrangères, avec des gens qui ne me ressemblent pas du tout. Tout. Et au début, on part en se disant, ça va être hyper intéressant, on va apprendre plein de trucs. Et c'est vrai, mais il y a un petit prix à payer. C'est que quand on vit avec des gens différents, parfois on ne se comprend pas, parfois c'est difficile, parfois on fait des erreurs sans le vouloir, parfois on se sent blessé par une attitude qu'ils ont eue envers nous et il faut se dire, non, c'était pas méchant, c'était pas personnel, c'est juste que ben, je suis ailleurs, ça se passe pas comme chez moi. Des fois, j'ai envie que ça aille vite, que ce soit fluide. Ben non, parce que ça fonctionne différemment. Les gens pensent différemment, les gens vivent différemment. Donc ça, c'est aussi un obstacle pour soi-même qu'il faut passer. On ne peut pas en parler aux gens parce qu'ils comprennent pas en fait. Ils font de leur mieux, ils vivent leur vie et c'est ce que je voulais aussi. Je voulais vivre comme eux, mais parfois, ben, c'était pas facile. Mais c'est là où j'ai le plus grandi et le plus appris dans ma vie, je pense.
D'accord, merci beaucoup. Et du coup, bon, en rapport à ce que vous dites, comment vous faisiez pour communiquer en termes de langue?
Alors, il y avait plusieurs solutions. Parfois, on avait une langue commune dans le sens où les personnes chez qui je vivais parlaient par exemple bien anglais. Donc là, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était facile. On pouvait échanger facilement, on pouvait discuter facilement, même de choses personnel ou de nos familles ou de ce qu'on pensait de ceci, cela. Mais je dois dire que bien que ce soit le cas le plus facile, c'était pas le plus courant. Plus couramment, on va dire, les gens chez qui j'étais parlaient très peu anglais. C'était, oui, la plupart du temps, c'était ça. Ils faisaient vraiment des efforts, ils allaient chercher au fond de leur mémoire ce qu'ils avaient appris à l'école, ce qu'ils avaient entendu dans une chanson ou entendu dans une série en VO un jour. Et ils faisaient de leur mieux et la communication était réduite. Mais c'était pas pour autant désagréable. Elle était réduite au strict minimum. Mais après tout, quand on se parle pas, et c'est le troisième cas, où je ne partageais pas du tout la langue des gens qui me recevaient, eh ben, il faut trouver d'autres manières de communiquer. La première chose que j'ai appris à faire, sur le tas, on va dire, sur le terrain, c'est que puisque je ne pouvais pas me servir de la parole, je me servais de tous les autres sens, et en particulier de la vue. Je regardais comment ils se tenaient, comment ils interagissaient les uns avec les autres, puisque moi, il me manquait ce dernier bout d'action et de communication avec eux, mais je regardais comment ils faisaient. Est-ce qu'ils avaient l'air d'être en colère? Est-ce qu'ils se parlent doucement? Il y a des peuples qui parlent plutôt à voix basse, il y a des peuples, on a l'impression qu'ils s'engueulent en permanence, mais juste ils parlent fort. C'est comme ça. Donc j'essayais de voir, est-ce qu'ils se parlent doucement, est-ce qu'ils se parlent fort, comment on mange, comment ils servent de leurs mains pour manger, ou des couverts, comment ils s'assoient sur le sol, quelles sont les positions qu'ils prennent typiquement, est-ce qu'ils se touchent? Est-ce que le mari et la femme, ils se tiennent la main, ils se font des bisous, est-ce qu'au contraire on voit que dans cette culture, on n'a pas de communication directe? Est-ce que les enfants jouent ensemble? Est-ce qu'ils chahutent? Est-ce qu'ils sautent dessus? Ou est-ce que là aussi, il y a une sorte de distance culturelle qui est respectée? Et tout ce que j'observais, je l'imitais. Et quand j'arrivais à bien les imiter, je me fondais dans le décor. Ils faisaient plus attention à moi, comme « Oh, elle n'est pas pareille que nous, elle ne se tient pas pareille. » Il faut imaginer, vous êtes chez vous, vous avez invité un ami à manger et il arrive et il s'assoit sur la table. Vous dites, alors vous osez rien dire parce que c'est un copain, mais vous dites, bizarre quand même. Et en fait, si votre copain il s'assoit directement sur une chaise, comme on a l'habitude, vous ne faites pas attention, vous ne posez même pas la question. Et donc j'essayais de faire ça, de prendre les mêmes habitudes et les mêmes postures. Et puis, j'écoutais. Au début, j'entendais que du yaourt. Après, j'entendais des syllabes qui revenaient. Je me disais, ça doit être des mots qui se disent. J'essayais de deviner par le contexte, mais c'était pas toujours possible. Parfois oui, parfois non, le plus souvent. Au fur et à mesure, ces syllabes devenaient des mots, j'arrivais à trouver le contexte. Et puis, une sorte de jeu parfois s'installait entre les gens et moi. Je me souviens, par exemple, dans le village indien dont j'ai parlé, les femmes du village voyaient que je parlais pas leur langue, le marwari, et elles arrivaient vers moi avec un objet dans la main, elle le posait devant moi et elle me disait le mot. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de vocabulaire en fait. Et avec celle qui parlait anglais, je leur disais comment on dit how do you say this in your language. Et il me disait fallait apprendre par cœur parce que j'avais pas toujours un papier, un stylo pour noter. Alors j'essayais, ou des fois on me tendait une assiette avec un mot. Alors là, trois solutions. Soit ça veut dire tiens, soit ça veut dire mange, soit c'est le contenu de l'assiette, peut-être qu'on me décrit. Alors j'essayais de retenir et je le redisais dans un contexte similaire. Si les gens se marraient, c'est que c'était pas la bonne réponse. Jusqu'à ce que ça passe et que les gens sourient et qu'ils se rendent compte que j'avais finalement compris et que j'avais réussi à dire en même temps que... Voilà comment on peut communiquer avec des peuples. Il faut beaucoup de temps. Enfin, pas beaucoup de temps dans le sens il faut 6 ans ou il faut 10 ans, mais il faut ce temps personnel que l'on prend, où l'on dit « Ok, je peux pas parler. Comment je vais faire ?» Et être humble et dire « Oui, pourquoi j'ai pas besoin de dire tout le temps, de demander quoi, où est-ce qu'on va ? Je le verrai bien où on va. Quand on arrivera, je le saurai bien et on avisera à ce moment-là où qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette ? Ben, peu importe, de toute façon, il n'y a rien d'autre à manger, donc je mange, je me pose pas de questions. » Et puis au fur et à mesure, voilà, on progresse, par humilité, on commence à apprendre.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu certaines coutumes, certaines traditions qui vous ont surprise en tant que française, européenne?
Bien sûr, plein. Alors, lesquelles, c'est plutôt lesquelles dire, on va... Alors, je vais vous en dire une marrante, par exemple, en Mongolie. Ça pourrait même nous arriver ici, mais en Mongolie, quand on est assis, par exemple, ou même quand on marche dans la rue, et que par inadvertance, notre pied heurte le pied de quelqu'un. Là, on est assis face à face, peut-être si je croise les jambes, je vais toucher ton pied ou le pied de quelqu'un. Et bien, quand on fait ça, il faut serrer la main. Parce qu'en fait, ça porte malheur de toucher le pied de quelqu'un avec son propre pied. C'est comme une sorte de déclaration de guerre. Et donc, on se serre la main, on se prend la main comme ça pour dire « j'ai pas fait exprès, je vous prie de m'excuser. » Et donc ça arrive tout le temps dans la rue, de temps en temps, on voit des gens qui se retournent et qui se serrent la main. Et ça trouble beaucoup les Français qui vivent en Mongolie. Et j'avais discuté avec une Française qui était directrice de l'Alliance Française, donc c'est l'institut qui s'occupe de donner des cours de français à l'étranger, là c'était à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Elle m'a dit, quand je suis arrivée, je n'étais pas du tout au courant de cette tradition. Et la première fois que j'ai fait une réunion, les gens n'arrêtaient pas de se serrer la main. Et je me suis dit, ils ne sont pas vus depuis longtemps, peut-être qu'ils se redisent bonjour. Mais c'était toujours les mêmes qui se serraient la main. Et au bout d'un moment, on lui a expliqué que non, ça n'avait rien à voir, qu'elle pouvait commencer la réunion, il n'y a pas de souci. C'est juste que dès qu'ils croisaient et décroisaient, les gens ils serraient la main parce qu'ils se touchaient. Et quand j'étais en Mongolie aussi la première fois, j'ai fait un voyage en bus et j'étais assise au premier rang de ce bus. Et donc, si je rentrais dans les premiers passagers après une pause, par exemple, les autres qui rentraient touchaient le pied. Et donc, je serrais des dizaines de mains pendant tout le trajet. À chaque fois que quelqu'un montait, me touchait le pied, je serrais la main. Voilà, par exemple, une tradition marrante que j'aime bien raconter, qui m'a surprise, mais qui n'était pas dangereuse.
Ah, effectivement, bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, d'être ici encore une fois.
Ah bah, avec grand plaisir, j'adore raconter. Je crois que ça s'entend.
J'ai entendu parler, alors je ne sais pas trop comment on prononce, le nadam.
Nadam, oui.
Nadam.
Ah oui, on dit, comme en fait il y a deux A, on dit nadam.
Ok. Mm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est du coup ?
Oui, alors le nadam, alors c'est pas pour tout de suite, en fait c'est la fête nationale mongole. Donc ça se passe en été, c'est juste avant la nôtre, pour revenir, c'est facile, c'est 11, 12, 13. C'est sur 3 jours. C'est sur 3 jours. Donc le nadam, c'est la fête nationale des Mongols. Et il y a une particularité pour cette fête nationale, à la différence de la nôtre. Pendant 3 jours sont organisés des sortes de jeux traditionnels. On va dire un peu comme les Jeux Olympiques de la Mongolie. Donc à cette occasion, il y a 3 sports qui sont faits, qu'on appelle les 3 jeux virils, parce qu'avant c'était que pour les hommes, mais depuis maintenant les femmes peuvent participer aussi. Donc ces 3 jeux virils sont le tir à l'arc, la lutte traditionnelle et la course de chevaux. Alors la lutte traditionnelle, c'est toujours que les hommes qui en font. Je veux dire que c'est plus sexy. Il faut savoir que les lutteurs sont torse nu et avec une sorte de slip. Donc je me souviens que j'ai beaucoup aimé. Donc dans la lutte, c'est un contre un. Les deux hommes doivent s'empoigner, ils sont à l'intérieur d'un cercle et il y a un juge qui les suit. Donc il y a plusieurs couples ensemble. Hein. Mais c'est vraiment deux contre deux, c'est juste qu'on fait plusieurs matchs en même temps. Il y a un arbitre par bataille. Donc un arbitre qui regarde, et en fait ils doivent se pousser hors du cercle. Et le premier qui met l'épaule par terre, hors du cercle, a perdu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand... deux choses intéressantes, une marrante et une jolie. Quand le combat est terminé, celui qui a gagné fait une petite danse, qui s'appelle la danse de l'aigle. Donc il met ses bras sur le côté comme un aigle qui prend son envol. C'est le symbole qu'il a gagné dès que l'arbitre dit « c'est bon ». Et qu'il n'y a pas de débat. Et il fait sa petite danse de l'aigle. Donc en fait, il se met sur un pied et il lève les bras comme ça, comme un aigle qui s'envole. Et après, il met une claque sur les fesses du perdant. Ça fait toujours plaisir. L'autre jeu viril, c'est le tir à l'arc. Donc avant aussi, c'était que les hommes. Mais maintenant, les femmes, j'ai vu des femmes qui tiraient à l'arc et c'était magnifique. Donc ça se fait généralement à pied, même si c'est possible théoriquement de faire à cheval aussi. Mais dans le jeu viril, on tire à l'arc à pied. Donc il faut toucher une cible. Hein. Là, il n'y a pas de surprise. Et le dernier jeu viril auquel j'ai pu assister, je vais vous raconter parce que c'est toute une histoire. Et c'est aussi le top de la catégorie, c'est la course de chevaux. Alors, la course de chevaux, il faut savoir que les participants peuvent être des garçons ou des filles, mais par contre, pas plus de 11 ans. Ils sont tous des enfants. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sont plus légers. Et oui. Alors, il y a plusieurs catégories, mais la catégorie, c'est selon l'âge du cheval, en fait. Si le cheval a 1 an, 2 ans, etc. Par contre, il n'y a pas de différence si c'est une jument ou un étalon, mais généralement, c'est des étalons, d'accord ? Donc on met un enfant dessus et la course se déroule sur plusieurs kilomètres. C'est pas juste vite fait un sprint comme chez nous au tiercé, c'est plusieurs kilomètres dans la steppe. Donc c'est pas des pistes bien dessinées. Ils partent d'un point A et la ligne d'arrivée, c'est de la farine que tout le monde se hâte de mettre. À la fin, j'ai vu qu'ils renversaient des paquets de farine pour faire la ligne d'arrivée. Et alors il faut savoir que la deuxième fois que j'étais en Mongolie, c'était pour le nadam. En fait, le nadam, c'est 3 jours, mais on continue de faire les jeux virils pendant quasiment un mois. Et donc, fin juillet, j'étais dans une famille de nomades et ils avaient un cheval qui participait à la course du nadam. Et donc, En fait, quand je suis arrivée, j'ai remarqué ce cheval. Il était toujours tout seul. Il était attaché au piolet traditionnel, alors que les autres vivent libres en troupeau. Lui était toujours attaché. Je me disais, c'est bizarre. Est-ce qu'il est malade ou quoi? Pas du tout. C'est le futur champion. Donc, interdiction qu'il aille se casser une jambe à galoper dans les collines. Il reste à côté des humains. Et autant les autres vivent leur vie, autant lui, on lui donne des petites herbes particulières, etc. Et donc le fils de la famille, le fils du père et de la mère qui me recevait cette fois-là, c'était lui qui allait monter notre champion. Alors les chevaux n'ont pas de nom dans la culture mongole. Nous, on leur donne des noms, mais eux, ils sont appelés par leur couleur. Du coup, je vais juste l'appeler champion. Je trouve que c'est un nom qui lui va bien. Et donc notre petit champion... Et son cavalier, parce que le cavalier, on s'en fiche un peu, vous allez comprendre. Surtout, c'est le cheval. La veille de la compétition, le drame, il se met à tousser. Et j'étais avec des élèves en Mongolie. J'avais des élèves avec moi en Mongolie qui apprenaient la danse mongole. Et donc, le père de la famille et le cavalier, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Il se met à tousser. Demain, c'est la course. Ils viennent nous voir, ils nous disent, vous n'avez pas des médicaments? Et en fait, il y avait un de mes élèves qui prenait un médicament à base de cortisone parce qu'il avait un petit problème de santé. Et dans mes élèves, j'avais aussi mon amie d'enfance qui était venue avec moi en Mongolie et elle possède des chevaux. Depuis qu'elle est toute petite, elle fait des compétitions de saut d'obstacles. Donc les deux ensemble, en fait, j'ai demandé à ma copine d'enfance, que tu penses que les chevaux peuvent prendre de la cortisone? Elle a dit oui, telle dose, etc. Ça peut aller. Et donc, on est allé donner un cachet de cortisone au champion. Et ça a marché. Le lendemain, nous, on prend nos chevaux, on monte à cheval et on va jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis, on attend. On sait que la course se lance. Et là, on attend. Et au bout de plusieurs heures, on ne savait pas trop quand est-ce qu'ils avaient démarré parce que la ligne de départ était vraiment loin, on commence à voir un nuage de poussière qui se soulève un peu partout. Et on se dit, ça y est, ils vont arriver. Et là, qui on voit arriver en tête? Accru, sans chaussures, sans casque, sans rien, notre petit cavalier sur notre champion qui passe la ligne d'arrivée en premier. On était tellement fiers, on sautait partout. C'était comme si on avait gagné, mieux que la Coupe du Monde. Et dès que le cheval a passé la ligne d'arrivée, évidemment, il ralentit. Le grand frère avait galopé les derniers mètres à côté de son petit frère pour le féliciter. Le cheval s'arrête, le grand frère prend le petit, le descend de cheval, et on l'emmène je sais pas où, et on prend le cheval, et on lui fait faire le tour, c'est lui qui avait gagné, et on lui passe une sorte de raclette, c'est une sorte de morceau de bois un peu recourbé, et on passe en fait la raclette sur l'encolure du cheval pour récupérer sa sueur, et on en met sur son front, ça porte chance. Donc tous les gens qui passaient prenaient un petit peu de la sueur du champion, et on le... Bon, il était peut-être un peu dopé. Mais on avait quand même gagné. Voilà pour mon souvenir perso d'une madame. Et il y avait une petite fille qui concourait aussi, on l'a vu. Et franchement, la petite fille, c'était pas une poupée Barbie. Hein. Elle en voulait, elle n'a pas gagné. C'est les cinq premiers qui gagnent, en fait. Les cinq premiers. Nous, c'est souvent les trois premiers qu'on compte dans nos compétitions. Eux, c'est les cinq premiers. Elle n'était pas dans les cinq premiers, mais on l'a vu... Avant le départ, parce qu'avant le départ, ils sont près de la ligne d'arrivée et ils tournent autour d'un arbre sacré en chantant une chanson pour encourager leurs chevaux. Après, ils vont à la ligne de départ, plusieurs kilomètres. Donc, on l'a vu au moment où elle faisait la prière avec son cheval autour de l'arbre. Et waouh, c'était une petite guerrière. Hein. Elle m'a impressionnée.
Oui, je voulais vous demander, du coup, quelle danse vous enseignez?
Alors, j'en enseigne plusieurs. J'enseigne surtout la danse chinoise. J'enseigne aussi un peu de danse japonaise. Et puis après, ben, ça dépend ce qu'on met dans l'Asie. Alors, j'enseigne aussi un peu de danse tibétaine. J'enseigne la danse mongole, que j'ai apprise en Mongolie. Qu'est-ce que j'enseigne d'autre? J'enseigne de la danse indienne, celle que j'ai apprise auprès des nomades dans le désert. J'essaie de trouver ce qui va dans Asie, en fait. Mais on va dire, oui, la danse balinaise aussi. D'Indonésie, Bali c'est une île d'Indonésie, donc ça j'enseigne aussi, mais plus rarement. Parce que le problème des danses asiatiques, c'est qu'elles sont très peu connues en France et en Europe d'une manière générale. Et même souvent, il y a beaucoup de préjugés et de clichés sur les danses asiatiques. À chaque fois, quand je dis je fais de la danse chinoise ou de la danse japonaise, les gens disent « Ah, c'est... est-ce que ça bouge ?» Alors déjà, c'est de la danse, donc on reste pas assis sur une chaise, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas de la salsa, mais c'est de la danse chinoise. Si vous voulez faire de la salsa, il faut faire de la salsa. Mais tout bouge, et je vous jure que ce soit de la danse chinoise ou de la danse indienne, mes élèves sont claqués à la fin du cours. Donc ça doit quand même un peu bouger. Et elles ont des cours battus le lendemain, donc je confirme que ça doit un peu bouger. Mais c'est vrai qu'il y a plein de clichés, on a toujours l'impression que c'est lent, ou la musique est bizarre, etc. Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas habitué, tout simplement. Et parfois, je dois dire, parce qu'on ne se donne pas la peine de faire connaissance. Et souvent, quand je fais une démonstration de danse chinoise, à la fin, les gens viennent me voir et me disent « Ah, mais je pensais pas du tout que c'était comme ça !»« Ah oui !» Faut venir voir, faut être curieux, faut être ouvert. Et une fois que vous avez vu, bah, vous vous rendez compte que c'est pas si dramatique. Après, tout le monde n'est pas obligé de tout aimer. Mais je pense que c'est quand même bien d'être curieux et ouvert d'esprit.
D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ?
Moi, j'avais une question. Alors, après, c'est peut-être un peu de l'ordre personnel. Je sais que vous avez vécu une sorte de virage professionnel, oui. En fait, puisque vous n'avez pas toujours fait de la danse.
J'ai pas toujours fait de la danse, non.
Et je voulais savoir ce qui avait pu motiver vos voyages comme ça. Est-ce que c'était dans le but, justement, de devenir professeur de danse, ou alors c'est tout autre chose, ou est-ce que, et puis, est-ce que vous êtes parti avec un organisme, ou c'est vraiment vous qui êtes parti avec un sac à dos et êtes allé à la rencontre des peuples ?
Alors, je vais répondre dans le sens inverse des questions. Ouais. Premièrement, je suis partie seule. J'ai vendu tout ce que je possédais et ce qui restait de ma vie devait tenir dans une valise. J'avais pas droit à plus dans les avions. Donc je suis vraiment partie toute seule, j'ai trouvé les contacts toute seule, j'ai voyagé de pays en pays, toujours seule. Bien sûr, j'étais accueillie sur place. Mais toutes les décisions que j'ai prises, je les ai prises seule et indépendamment de... tout à chacun, c'est-à-dire que je n'avais pas d'argent de la part de mes parents, ou je me suis auto-financée avec ce que j'avais pu économiser et avec les cours de danse que je donnais sur place. Donc ça, c'est la deuxième question. En fait, avant de partir, j'étais déjà prof de danse. J'ai fait des études de linguistique et j'ai toute ma vie pensé que j'allais travailler comme prof à l'université notamment. J'ai fait des longues études, je suis allée jusqu'au doctorat. Donc tout ça, ça me destinait en fait à rester dans l'enseignement, même dans l'enseignement plus-plus, quoi, dans l'enseignement supérieur. Mais j'avais toujours aimé danser, mais c'était pas mon métier, et c'était même pas mon loisir parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait des grosses études et j'avais pas le temps. J'avais pas toujours eu vraiment aussi envie de prendre des cours, parce qu'il y a danser et il y a prendre des cours de danse, c'est pas la même chose. Quand j'étais petite, j'avais fait de la danse classique et j'étais très peu douée. Et ma prof me l'avait bien bien fait comprendre. Du coup, les cours de danse, je me disais, c'est pas pour moi, mais j'aimais la danse. J'ai fait de la linguistique dans mes études, j'ai fait beaucoup de langues étrangères parce que j'avais déjà cet attrait pour les autres cultures. Ça m'est toujours resté. Et j'ai pensé que j'allais aller à la rencontre des autres grâce aux langues. Et je dis pas que c'est pas arrivé. Mais finalement, c'est par un chemin de traverse que c'est revenu. C'est la danse finalement qui m'a amenée à la rencontre des autres. Donc j'enseignais déjà la danse avant de partir en voyage, mais... quand je suis partie, en fait, plutôt les mois qui ont précédé mon départ, parce que tout ça, ça s'est fait en 3 mois, ça a été très très rapide, hein, vraiment, en 3 mois, j'ai pris la décision et j'ai tout vendu. Je peux pas faire remonter ça à un événement particulier, en fait. C'est comme si, au fond de moi, il y avait eu cette intuition forte, cette nécessité de le faire. Tout était contre cette décision. J'étais une femme. J'étais seule, j'avais pas de contact, j'avais pas d'argent, pas beaucoup, en tant que prof de danse. quand j'ai commencé à, même à dire, un jour j'aimerais bien voyager à travers le monde, on m'a dit, oh, c'est dangereux, attention, ils peuvent te mettre de la drogue dans les valises. Enfin, tout de suite, des arguments, je me disais, quoi? C'est même pas le premier truc auquel j'ai tout parlé contre cette décision. Mais cette intuition était si forte, si puissante qu'elle m'envahissait, je n'en dormais plus. Elle m'épuisait, j'en perdais mes cheveux. Parce que je ne voulais pas prendre cette décision, je me disais, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Tout le monde me dit de pas le faire. Mais ça me tuait intérieurement. Et je voulais pas mourir de ça, de me dire que je l'aurais jamais fait. Et c'était maintenant. Alors ce fut maintenant.
D'accord, merci beaucoup.
Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous faire écouter une des musiques sur lesquelles vous dansez?
Bien sûr. Eh ben, je vais vous faire écouter une musique chinoise, par exemple, puisqu'on en a parlé. Alors, ça, on coupera. Je vais dire une jolie chanson. Ah, ben voilà. Je vais vous jouer, vous passer une chanson sur laquelle je danse et qui s'appelle Li Ge Bang. Et en fait, le texte de cette chanson parle des choses qui étaient importantes et qui sont toujours importantes, j'espère. Mais en tout cas, qui étaient la règle dans la Chine ancienne. Et ce qui était la règle, c'est ce qu'on appelle Li. Et Li, on traduit par politesse, mais c'est trop faible comme mot, en fait. Li, c'est pas juste la politesse de dire bonjour madame et merci monsieur. C'est pas ce genre de politesse. Li, c'est d'avoir le respect des autres. Alors bien sûr, ça passe par la politesse des mots où on s'exprime bien, mais ça passe aussi par la bienveillance, ça passe par ne pas critiquer, ou ne pas critiquer à mauvais escient en tout cas, par être gentil avec les autres, par essayer de toujours essayer de se mettre à la place des autres et de se dire que nous, peut-être cette personne nous met en colère, on a peut-être envie de se dire il est méchant, etc. Mais si on se met à sa place, est-ce qu'on pense pas différemment? Donc on essaye de rechercher l'harmonie par cette politesse. On se dit au moins soyons gentils les uns envers les autres. On sait pas ce que les autres vivaient. Peut-être que là il est méchant, peut-être qu'il est de mauvaise humeur, mais j'essaye de me mettre à sa place. Il y a peut-être une raison. Soyons de base gentils, diplomates, courtois, et au moins comme ça, ça se passera bien. Ça se passera bien, ça va apaiser au moins en surface. Quand ce sera apaisé en surface, on pourra aller plus profondément. Donc voilà de quoi parle cette chanson.
Shall
Merci pour cette musique, c'était très joli.
Je vous en prie, est-ce que c'était comme vous aviez imaginé la musique chinoise ?
Je pense que c'était aussi délicat que je l'avais imaginé, mais plus joli.
Plus joli encore.
J'ai beaucoup aimé.
Merci.
Je voudrais bien le titre. Je voulais vous demander ce qui vous avait... parce qu'il me semble qu'avant de découvrir les danses étrangères, vous faisiez du contemporain, du classique.
Alors en fait, c'est pas tout à fait avant, c'est pendant. Quand je faisais mes études de linguistique, que j'étais en désormais ce qu'il est convenu d'appeler M1, avant ça s'appelait une maîtrise. Quand j'étais en maîtrise de linguistique, je passais beaucoup de temps dans les bibliothèques, bien sûr, à éplucher des livres pour pouvoir rédiger mon mémoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu à nouveau envie de vraiment prendre des cours de danse. Pas juste danser pour moi, mais de recommencer des cours de danse. Et j'ai commencé d'abord par la danse orientale. D'abord, j'étais élève, puis je suis devenue prof. Et quand je suis devenue prof, et que c'est même devenu vraiment mon métier à plein temps, je me suis dit que je ne pouvais pas juste faire de la danse orientale pour comprendre la danse orientale. Alors, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du contemporain pour me confronter à quelque chose de nouveau. Je crois qu'on retrouve une démarche toujours un peu similaire dans ma vie. J'allais me confronter à d'autres peuples, à d'autres langues, et même dans mon propre métier, j'allais me confronter, même en tant que danseuse orientale, je me suis dit, je vais faire de la danse classique, je vais faire de la danse contemporaine parce que c'est très différent de ce que je pratique et de ce que j'enseigne. Et ça va m'apporter quelque chose de voir cette différence. Cette différence va apporter de nouveaux mouvements, de nouveaux concepts, mais ça va aussi me permettre de prendre un regard extérieur sur la danse que j'enseigne moi et peut-être de mieux l'expliquer et de mieux la comprendre. Donc voilà, et puis après, bah, c'était le délire puisque j'ai commencé à faire plein de danses. Ça s'est plus jamais arrêté. Mais je fais plus de contemporain à l'heure actuelle, je fais que des danses traditionnelles. Mais là aussi, ça a été un choix de me dire, bah voilà, j'ai vu ce que c'était la danse contemporaine, ça m'a beaucoup apporté. Mais je sais aussi pourquoi aujourd'hui j'arrête de pratiquer et pourquoi j'aime tant les danses traditionnelles. Et la raison, c'était que les danses contemporaines m'apparaissaient, là aussi c'est un jugement personnel hein, qui n'engage que moi, je trouvais que c'était très intellectuel. Je faisais partie d'une troupe de danse contemporaine et notre chorégraphe, elle réfléchissait beaucoup, elle avait des idées incroyables. On faisait des morceaux vraiment... super intéressant, qui sortait complètement, qui me sortait de ma zone de confort en tant que danseuse orientale. Et c'était hyper réfléchi, et telle couleur, et on va mettre ça comme ça, tel mouvement, ça veut dire ceci. Et au début, je me disais, waouh, c'est incroyable cette profondeur. Il n'y a pas du tout ça dans la danse orientale. La danse orientale, on danse au rythme de la musique, et super. Et au départ, j'étais vraiment séduite par la danse contemporaine. Je me disais, il y a vraiment plus de profondeur. Et au fur et à mesure de mon apprentissage, eh bien, mon impression s'est renversée. Je me suis dit, c'est toujours intellectualisé, la danse contemporaine, c'est toujours tel chorégraphe a fait telle œuvre et il faut applaudir à la fin. Et en fait, les danses traditionnelles, et encore plus quand je les ai connues dans leur pays d'origine par les gens, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment des danses humaines. C'est des gens qui sont faites non pas par monsieur le chorégraphe, ceci, cela, mais... par juste quelqu'un, en fait, qui était en train de faire la cuisine et qui soudain se lève et danse. Et qui est si humain. Et il danse pas un truc qu'il a inventé où il s'est dit le soir, ouais, je vais faire comme ça et tout. Non, non, il danse que dansent ses ancêtres. Il danse ce qu'il aimerait que ses enfants continuent à danser après lui parce que ce qu'il danse, c'est pas juste lui. C'est pas lui comme individu. C'est toute une histoire. C'est toute une culture. C'est tous ses ancêtres qui parlent au travers de ses mouvements. Et je me suis dit, en fait, waouh, ça, c'est vraiment fort. C'est ça qui est profond, en fait. C'est qu'on a l'impression, ils sourient, ils font des petits mouvements, ils ont des beaux costumes, c'est comme ça que nous, on le perçoit de l'extérieur. Mais de l'intérieur, pour eux, c'est hyper sérieux, ce qu'ils font. C'est pas n'importe quoi. C'est rendre hommage au passé, prévoir le futur, espérer pour le futur et célébrer le présent. Ça me paraissait soudain beaucoup plus profond et... beaucoup plus intéressant que juste de dire on va faire un truc sur la société de consommation. C'est au-delà de ça. La société de consommation, c'est maintenant. Oui, d'accord. Mais il y a quelque chose au-dessus de nous, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui est encore plus grand que ça. Et qui est plus ancien que ça. Et qui durera bien après nous. Soyons humbles.
Alors, de façon assez générale, pourquoi la danse et pourquoi la danse traditionnelle?
Alors, pourquoi la danse traditionnelle? Je pense que là, du coup, j'ai déjà un peu répondu à la question. Pourquoi la danse? Eh ben, je sais pas. Je crois que la danse est venue à moi. C'est pas moi qui ai choisi la danse. Je pense que c'est la danse qui m'a choisi. Vous voyez, j'ai arrêté la danse classique. Après, j'ai fait des études de linguistique. Vraiment tout fait pour aller contre le corps. J'ai fait des choses intellectuelles. J'ai même bien réussi. Mais la danse m'a retrouvée. Et elle m'a dit, il faut partir. Il faut aller me chercher partout où j'existe. Dans chaque pays, dans chaque personne qui bouge les pieds, les mains, il faut que tu viennes me retrouver. C'est ce que j'ai fait.
On en est ravis pour vous, en tout cas. Alors, question très globale. Que mange-t-on en Asie?
Oh, alors là, on mange plein de trucs. Des trucs sympas, des trucs douteux. Mais globalement, c'est bon. Alors, je veux dire, déjà, pour commencer, à une exception près, je n'ai rien recraché en Asie. Il y a un truc, quand même, que j'ai pas pu avaler. Mais aujourd'hui, je me dis, il faudrait que je le regoute, quand même. C'est les œufs de 100 ans.
Ah.
C'est des sortes des œufs un peu fermentés, pourris. Après, je sais pas trop, mais c'est considéré comme quelque chose qui est hyper bon pour la santé. Et avec mes copines au Vietnam, on était parti faire un massage. En Asie, entre copines, on va souvent faire des massages. Plutôt que d'aller boire un café ou un thé comme on fait ici, souvent entre copines, on va faire des massages. Et les massages asiatiques, c'est pas les petits massages de spa, les petites caresses comme ici. C'est ça, elles y vont avec le coude, avec les pieds, elles jettent des serviettes de boue chaude et elles rigolent quand on crie. Et à la fin, comme le corps a quand même un petit peu pris cher... C'est pour notre bien, soi-disant. À la fin, en fait, il y a un moment de repos. On ne sort pas directement de l'institut. Et on boit un thé, on mange un truc bon pour la santé. Et donc là, il y avait des œufs de 100 ans. Alors moi, je n'avais pas pris ça. J'avais pris un porridge qui me paraissait totalement raisonnable. Mais une de mes copines avait pris des œufs de 100 ans. Et franchement, ça me titillait de goûter. Bon, j'ai recraché. Mais pour le reste, tout ce que j'ai mangé était très bon. Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse destroyage de clichés. On ne mange pas que du riz en Asie. C'est vrai qu'on dit tout de suite le riz. Alors, déjà, il faut se rappeler que le riz, ça pousse sous un certain climat. Et que quand il n'y a pas le climat, il n'y a pas le riz. Par exemple, en Chine, c'est vrai qu'on mange beaucoup de riz. Je vais pas dire que... Moi, j'étais surtout à Pékin, donc dans le nord de la Chine, je vais pas dire que j'ai pas mangé de riz. Mais la vraie céréale du nord de la Chine, c'est le blé. Parce qu'au nord de la Chine, il pleut pas assez pour faire pousser du riz. C'est pas du tout le bon climat. C'est le même climat que chez nous, à peu près en un peu plus violent. C'est un climat continental, donc c'est plus comme en Allemagne ou en Europe de l'Est. Donc c'est plus chaud qu'ici en France, plus froid l'hiver. Mais en tout cas, le riz vient du sud de la Chine. Il faut l'importer. Et je me souviens que dans ma famille, les sœurs aînées, elles faisaient des galettes de blé, tout simplement, ou alors à base de soja, ou des choses comme ça. Et oui, bien sûr, on mange du riz parce qu'on est au 21e siècle et que maintenant, du riz, on en trouve partout. Mais la nourriture de base des Chinois du Nord, c'est le blé, et pas le riz. Alors, au Japon, c'est autre chose. Au Japon, il y a toute la pluie qu'il faut pour faire pousser du riz, donc là, pas de souci. On fait pousser, ou à Bali aussi, c'est un art de vivre, le riz. Mais voilà pour le cliché Asie égale riz. Non, et puis en plus, il y a différents riz. Le riz chinois n'est pas le riz indonésien, qui n'est pas le riz japonais. Et je peux vous dire que pour nous, occidentaux, c'est du riz. Pour eux, c'est pas là, oulala. Et même mes copines japonaises qui habitent en France ici, elles sont hyper strictes sur le riz. Hein. Quand je dis, ah ben j'ai acheté un paquet de riz à tel magasin asiatique, elles me disent, quoi? Mais il est dégueulasse. Je croyais que c'était du riz. Dites non, mais il faut l'acheter là. Sinon, c'est pas comestible. Et ils ont un palais qui est différent du nôtre. Alors après, j'ai mangé des trucs très très sympas. Mais alors, qu'est-ce que j'ai vu de drôle? Alors, j'ai pas mangé. Hein. Mais il y a un quartier en Chine. C'est le quartier qui est autour de la cité interdite, qui est conservé un peu à l'ancienne, on va dire. Alors, c'est... pas mal touristique, on va pas se mentir, mais quand on dit pas mal touristique en Chine, c'est aussi pas mal touristique pour les Chinois eux-mêmes, parce que la Chine, on a vu la taille, hein, donc il n'y a pas que des touristes étrangers qui sont touristes en Chine, des Chinois eux-mêmes. Et alors là, quand même, il y avait des brochettes de trucs que j'aurais jamais imaginé. Des hippocampes, des rats écartelés, des scolopendres, des blattes, des araignées, des scorpions vivants qui agitaient vainement leurs petites pattes alors qu'ils étaient déjà embrochés sur le truc. Et en plus, ça valait plus cher qu'une brochette de poulet. Alors franchement, on se dit, oh non, mais pour mes finances, forcément, hein, je vais rester sur du poulet, hein, j'ai pas trop d'argent. La bonne excuse. La bonne excuse. Mais bon, je vous rassure, dans les familles, on mange pas des scorpions au petit-déj. Hein. Par contre, tradition intéressante, en Asie, contrairement à l'Europe, on mange pas... chacun dans une assiette, en fait. On met des plats au milieu de la table et chacun un petit bol, bah souvent avec du riz ou alors une galette, si c'est plus dans ces cultures-là ou dans ces climats-là. Et puis, bah, on prend en fait au fur et à mesure dans un plat, dans l'autre, avec ses baguettes. Si on a un petit bol, par exemple, bah, on prend un petit peu de tel plat, on met sur le bol un petit peu de tel plat, puis après, on mange dans son bol. Mais c'est vrai que quand on va au restaurant, par exemple, entre amis asiatiques, on commande 12 plats, comme ça... Il y en a partout au milieu, c'est pas « Ah ben moi je vais prendre ça et toi t'as pris quoi comme menu ?» Non, non, on prend plein de trucs et chacun se sert. C'est super agréable et convivial. C'est aussi comme ça dans les familles. En Chine, normalement il y a toujours au moins 3 plats sur table. Alors les chiffres impairs portent chance en Chine. Donc quand on est dans la vie de tous les jours, il faut 3 plats. Un plat c'est pas assez. 3 c'est le minimum. 5 c'est quand on a des invités. Et puis après, 7 et 9, là, c'est pour les grandes fêtes. 9, c'est le max. C'était le chiffre de l'empereur. Et donc là, c'est pour une grande fête, il y a 9 plats. Mais pas 10. 10, ça apporte malheur. Et 8, ça apporte malheur aussi. 9, il faut que ce soit 9. Donc dans les familles, bah oui, toujours 3 petits plats. Alors après, c'est pas forcément des plats du resto, mais il y a un petit plat de légumes, un petit morceau de poulet, puis peut-être un petit bol avec des tomates. Ça fait un plat aussi, mais ça fait un petit peu de fraîcheur. Voilà, donc c'est pas si compliqué. Par contre, autre anecdote, du coup, quand j'étais au Vietnam, je suis allée une fois avec ma copine Tien dans un restaurant à l'occidental. Elle voulait m'emmener, c'était un restaurant où il y avait des pizzas, des burgers, un peu de tout, quoi. Donc je regarde le menu, elle me dit « t'as envie de quoi ?» Alors j'avais vu une pizza qui me faisait de l'œil, je dis « bah, je vais prendre cette pizza-là ». Et elle dit « ok », elle appelle le serveur, puis elle commande en vietnamien, donc moi j'ai pas compris. Et elle a fait comme en Asie, elle a commandé plein de plats. Alors, il a fallu s'enfiler 3 pizzas, 2 burgers, un plat de pâtes. C'était n'importe quoi. J'ai roulé hors du restaurant et on n'a pas tout fini. J'ai dit « écoute Tien, je sais qu'on est au Vietnam, mais là c'est un restaurant occidental et franchement les portions sont pas pensées. Surtout à 2 pour qu'on mange chacune une moitié de burger et... » Bref, c'était très drôle. Voilà un cas d'interculturalité flagrante. Qu'est-ce qu'on mange d'autre ? Mais on mange pas forcément épicé. Ça dépend du pays. En Indonésie, on mange très épicé. Au Japon, pas vraiment. En fait, il faut savoir que souvent, les pays où on mange épicé, c'est les pays tropicaux ou les pays où le climat, parce qu'il est très chaud aussi, par exemple, ou très froid... fait que les ingrédients se conservent mal. Et le piment, ça nettoie un petit peu l'estomac. Quand il y a des ingrédients qui sont un peu limite, on va dire, ça nettoie. Mais ouais, c'est pas nécessairement... Faut pas se dire, là, ça va être pimenté de base. Il y a des pays où ça l'est, des pays où ça l'est pas. Par contre, les pays où ça l'est, où c'est pimenté, c'est vraiment pimenté. Et puis, il faut pas venir dire aux gens que vous voulez pas pimenter parce qu'ils comprennent pas du tout, quoi. Ils sont en panique en disant, mais là, on n'avait pas mis de piment, alors que... Eux, ils ont l'impression de ne pas avoir mis de piment. Voilà, c'est compliqué quand on va en Inde et qu'on dit pas de piment. Ils font dire yes, no problem. On arrive, on crache du feu, mais ils sont persuadés de ne pas avoir mis beaucoup de piment. Ils ont fait de leur mieux.
D'accord. Est-ce que, en arrivant du coup dans ces différents pays, vous aviez des a priori que vous avez déconstruits du coup ?
Certainement, oui. J'essayais d'en avoir le moins possible et une des règles que je m'étais imposée, c'était de ne pas du tout me renseigner sur le pays avant d'y aller. Bon, après, évidemment, je ne vais pas dire que je ne savais rien de la Chine avant d'y aller. C'est logique, on a tous entendu parler de la Chine. C'était plus facile sur des pays comme la Mongolie ou l'Indonésie qui sont moins connus chez nous. Mais forcément, oui, j'avais des a priori, mais j'essayais de pas... Donc de pas me renseigner sur ce que je ne savais pas et de pas trop penser à mes a priori. Mais c'est illusoire. On a toujours une petite voix dans la tête qui dit les Japonais sont très polis, les Chinois travaillent beaucoup. Et parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Je ne veux pas dire que tout est faux. Je veux dire, un a priori qu'on a n'est pas forcément faux. Parfois, il se révèle vrai. Moi, je pensais que les Japonais étaient très polis. Bah oui. Je pensais que les Chinois étaient polis comme les Japonais. Bah non. En tout cas, pas de la même manière. Au Japon, les gens faisaient bien la queue pour entrer dans le métro. Et à Pékin, j'ai vu des gens qui se battaient sur le quai du métro, quoi. Foire d'empoigne. C'était pas du tout la même ambiance. Donc oui, c'est... En tout cas, ça remettait les choses à zéro. Et ça déconstruisait des a priori, ça en confirmait d'autres. Et je pense que le mieux, oui, c'est de pas trop se renseigner et de se laisser surprendre. Comme ça, on arrive le plus neutre possible et on se fait son avis sur place directement et pas grâce à des livres ou à cause de gens qui vous disent « Ah, tu vas voir, ils sont hyper gentils. » 2 heures plus tard, vous faites tirer votre portefeuille. Voilà, ou l'inverse, c'est-à-dire mais ils sont infernaux, ils arnaquent tout le monde. Puis en fait, non, pas du tout. Si on se comporte bien, les gens sont gentils, tout simplement.
Est-il vrai qu'au Japon, il est irrespectueux de traverser au feu rouge ?
Oui, bah comme ici, normalement. Hein, hein, normalement, oui. En fait, mais c'est drôle que vous me posiez la question parce que j'en parlais avec une copine japonaise il y a 2 semaines. Elle habite en France, et on parlait justement du problème du feu rouge. Et je disais qu'en France, en fait, on prend le problème en se disant, est-ce que c'est dangereux ou pas ? Donc on regarde à droite, à gauche, s'il n'y a pas de voiture, c'est pas dangereux. Pas... Mais eux, les Japonais, ils voient ça autrement. Elles me disaient, nous, pour nous, il faut qu'on soit un modèle pour les autres. Il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde, mais c'est vrai qu'on regarde à droite, à gauche, même s'il y a un gamin qui est là avec son père, on dit, personne, on traverse, quoi. D'être un modèle pour les enfants, ça nous touche. Pas trop, soyons honnêtes. Et puis bah, les Japonais, eux, dans leur culture, ça les touche. Ils ont envie, culturellement, d'être un modèle les uns pour les autres et ils disent que si eux respectent, les autres respecteront aussi. Et du coup, ça se passera mieux. Il n'y aura pas de « mais pourquoi tu traverses au rouge ?»« T'es interdit, ah oui, mais non, mais si, mais regarde, il n'y a personne, tu peux être débile. » Mettons-nous tous d'accord et soyons un modèle pour les générations à venir.
D'accord. Le respect des aînés est-il important ?
Très important. Il est très important parce que, en fait, on a conscience de ce qui nous lègue. Dans notre culture occidentale, on a beaucoup tendance à valoriser les jeunes. Parce qu'on dit, par exemple, quand quelqu'un meurt jeune, on dit, c'est vraiment triste, il n'a pas eu le temps de vivre sa vie, de faire des expériences. Et quand c'est une personne âgée qui meurt, on dit, c'est dans l'ordre des choses, il a eu une belle vie, voilà. Et en Asie, c'est un peu l'inverse. Alors, c'est pas aussi dramatique que ça, je schématise un peu, mais c'est un peu l'inverse. Quand un jeune meurt, on dit, de toute façon, il n'a encore rien apporté. Il n'a pas eu le temps d'apporter quelque chose. Mais quand c'est un ancien qui meurt, c'est toute une expérience qui s'en va. C'est toute une vie qui s'en va, on ne pourra plus jamais lui demander comment c'était, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'en penses, quel est ton regard là-dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'on valorise les aînés, parce qu'ils ont de l'expérience. Les jeunes, ça n'a pas d'expérience. Il faut du temps pour ça.
D'accord, merci beaucoup. En lien du coup avec votre métier, auprès de qui intervenez-vous ?
Oula, alors plein de gens. Alors, je vais vous dire, à tel point que c'est plein de gens, ce matin, j'étais dans une crèche. Donc, ça commence là et jusqu'à la maison de retraite. Tous les stages de la vie, je fais tout le monde. Personne n'est exclu. Donc, avec les tout-petits, je leur fais des démonstrations de danse. Après, ils dansent un petit peu avec moi. Je leur montre les costumes, ils touchent les tissus, ils écoutent la musique avec moi. Après, j'interviens aussi en primaire. Là, on apprend des petites chorés, puis on parle, qu'est-ce que c'est l'Inde, qu'est-ce que c'est le Japon, j'apporte des objets que j'ai ramenés de là-bas pour que ce soit plus concret, parce que les enfants, souvent, le Japon, c'est un mot. J'interviens aussi dans les collèges et les lycées, là, on parle un petit peu plus concrètement, peut-être des problématiques, un peu comme on a dit là sur la vieillesse, la jeunesse, on aborde des problèmes philosophiques. Je leur parle aussi de mon parcours pour dire que jamais rien n'est écrit et que parfois, il faut suivre son intuition, mais il faut aussi vouloir la suivre. Parfois, on s'en empêche. J'ai des adultes à qui je botte les fesses régulièrement dans mes cours hebdomadaires et réguliers. je leur apprends d'autres cultures, je leur fais travailler leur corps, je leur donne aussi confiance en eux, parce que la danse, ça donne confiance en soi, c'est un vrai travail de fond. Je travaille à l'université auprès des étudiantes, ça les détend dans leurs études, mais ça leur montre aussi d'autres perspectives de la vie avec elles. Parfois, je parle aussi de sujets plus philosophiques que la danse nous apporte et que les cultures étrangères nous apportent. Et puis voilà, avec les anciens, quand je vais dans les EHPAD, j'échange avec eux parce qu'eux ont plus vécu que moi. Je viens leur parler de l'Inde, mais eux connaissent aussi. Ils sont peut-être allés en vacances, certains y ont peut-être même vécu. Ouais, il faut toujours se préparer à échanger et je pourrais leur dire ce que j'ai vécu. Ils pourront parfois me dire ce qu'eux ont vécu des années avant moi et on pourra ensemble reconstruire un petit peu ce parcours d'un pays et d'une culture qui change.
D'accord, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des projets que vous êtes en train de mettre en place pour 2022?
Oui, en 2022, à partir de janvier, je crois, en tout cas aux alentours du Nouvel An chinois, on va ouvrir un nouveau cours de danse chinoise. Pour le moment, c'est juste à l'université. Mais j'aimerais énormément que plus de gens viennent... Viens essayer la danse chinoise parce que la musique est belle, parce que les mouvements sont beaux et aussi parce que la danse chinoise, comme le Qigong ou le Tai Chi qu'on connaît mieux ici, elle est aussi basée sur le souffle, sur la respiration. Elle contient beaucoup d'éléments philosophiques intéressants qui nous font réfléchir, mais elle fait aussi travailler le corps de manière naturelle. Elle permet de l'assouplir, elle permet de le renforcer, de prendre conscience de sa respiration. Elle a un côté un peu méditatif, je dis pas qu'on est assis et qu'on médite, mais... Comme on doit respirer, contrôler sa respiration nous permet de nous sentir mieux dans nos corps. Donc oui, c'est un des grands projets pour 2022, c'est de plus encore faire connaître la danse chinoise asiatique d'une manière générale, mais je pense que la danse chinoise est encore parlera plus en premier lieu aux occidentaux que nous sommes que la danse japonaise, même si j'aimerais beaucoup que les gens s'intéressent plus à la danse japonaise, qui elle est encore plus étrange ou différente de nous, mais pour moi... Plus c'est étrange, plus ça m'intéresse. Mais je sais pas, tout le monde pense pas comme moi. Du coup, des fois, j'ai un peu de mal à me faire comprendre. Mais je me dis, alors commençons par la danse chinoise. Et puis petit à petit, on fera notre chemin pour faire connaître autre chose que ce qui nous entoure.
Quel genre de grands principes possèdent ces danses? Quel genre de mouvements il y a?
Alors, comme il y a une danse par pays, c'est un peu difficile, mais disons, commençons par la danse chinoise. Donc, comme je disais, la danse chinoise se base sur la respiration, où le danseur ou la danseuse va, c'est aussi pour les garçons, hein, va contrôler sa respiration. Donc, on va respirer peut-être lentement pour faire des mouvements lents, rapidement pour faire des mouvements rapides. Le deuxième grand principe, c'est que tous les mouvements de la danse chinoise ont une forme de cercle. Parce que le cercle, c'est la forme parfaite. Pour les Chinois, c'est la forme la plus harmonieuse. Pas de ligne droite. C'est trop agressif, c'est trop plat. Il faut chercher le cercle. Donc on respire et notre respiration est un cercle. Puisqu'on inspire et on expire indéfiniment. Du premier souffle que vous prenez jusqu'au dernier que vous donnerez sur cette terre, vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer dans un cycle éternel dont vous ne vous apercevez même pas dans la vie de tous les jours. Pourtant, le cercle, il existe déjà en vous. Et donc c'est de ce cercle qu'on prend conscience par la respiration, on lui donne cette forme par le mouvement, et c'est comme ça qu'on va faire surgir des images, on va interpréter la musique, les concepts, on va, comme je vous disais tout à l'heure, comme la musique qu'on a passée sur la politesse, on va utiliser ces mouvements pour faire passer ce message. La danse japonaise, c'est différent. La danse japonaise, ce qui nous est étrange, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas celle qui va vous donner des courbatures. Par contre, elle va vous faire des nœuds au cerveau. La danse japonaise, c'est... Je suis sûre que ma prof détesterait que je dise ça, mais pour moi, c'est un peu la danse de la contrainte. On va vous imposer plein de contraintes, énormément de frontières, énormément de choses qui sont pas possibles. Déjà, on va vous habiller en kimono. Et croyez-moi, quand vous êtes dans un kimono, vous pouvez plus rien faire. J'ai l'impression que vous êtes figé avec un poids immense sur le corps. Plus pencher, etc. On peut aller aux toilettes, enfin, c'est toute une histoire pour aller aux toilettes. Bref, première contrainte, ça. Deuxième contrainte, interdiction de bouger le visage et de sourire pendant la danse. On a des raisons pour ces contraintes, mais j'ai dit comme ça. Plein de contraintes comme ça. Et on se dit, on va rien pouvoir faire, quoi. En gros, on fait deux trucs et c'est bon. Et ben non. Parce que plus on a de contraintes, plus il faut réfléchir à comment on va faire. mais pas pour les casser, ces contraintes. Elles existeront toujours, de même qu'une rivière, il y a toujours les bords. Hein. Si ça déborde, c'est dangereux. On ne déborde pas les frontières. Par contre, quand il y a un rocher, l'eau, elle se dit pas « Hey, pousse-toi, t'es sur ma route, c'est quoi le problème ?» Non, non. Ça passe autour. Tout en sachant qu'à force de passer, l'eau aura raison de ce rocher. Beaucoup plus forte que le rocher en réalité. Mais dans un premier temps, ça passe. Et donc c'est un peu ça la danse japonaise. On a l'impression qu'on va rien pouvoir faire. On veut même pas bouger avec ce truc, l'immense ceinture autour de la taille. Et en fait, si. Et on peut même tout dire. Et on peut tout exprimer. Mais pour ça, il faut beaucoup travailler. Comme on peut pas exprimer la joie ou la peine ou telle émotion avec le visage comme on a l'habitude de le faire, il va falloir que votre geste soit absolument parfait. Pas seulement faire un pas en avant, mais quelle est l'intensité de ce pas en avant ? Est-ce que vous le faites avec beaucoup de force, avec moins de force ? Grand ? Petit ? Et donc ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il bouge pas. Mais en fait, il se passe tellement de choses ! Pour qui sait voir ? Pour qui sait voir ? Et j'adore cette danse pour ça, elle apprend beaucoup. Elle apprend beaucoup sur la vie parce qu'on y réfléchit après aussi dans sa propre vie en disant « Oui, on a des contraintes, j'ai pas assez d'argent pour ça, ou je peux pas faire ceci, ou j'ai pas le temps pour ça, mais... » La rivière. Il y a toujours un moyen. Mais il faut de la patience pour la perfection.
D'accord, merci beaucoup.
Malheureusement, cette émission va bientôt toucher à sa fin. Alors peut-être, Célestine, aimerais-tu demander à ton invitée si elle a autre chose à nous faire écouter ?
Ouais, avec plaisir.
Alors je vais vous faire écouter du coup une musique japonaise. Allons-y ! Je vais vous en prendre une courte parce que le truc aussi, c'est que les morceaux japonais sont hyper longs. Alors on va prendre une hit.
Voilà, il est temps de se quitter. Merci beaucoup à toi, Célestine, pour ce voyage en Asie. Peut-être que tu veux nous dire aussi, avant de se quitter, pourquoi ça t'intéresse autant ?
Ça m'intéresse autant parce que j'étais censée y aller. Malheureusement, le voyage a été annulé à cause du Covid. Et je trouve que les pays asiatiques sont des pays avec beaucoup de valeurs et beaucoup de traditions que nous, occidentaux, on ne connaît pas forcément. Voilà.
Alors, on se tourne vers Mario de Ravé, donc, qui était ton invité dans cette émission. Où est-ce qu'on peut retrouver les cours de danse ? Parce que je crois qu'il y a des vidéos aussi, il y a plein de choses.
Oui, bah, il y a plein de choses. Alors, déjà, on a une page Facebook de l'association Aux 4 Vents. Et Aux 4 Vents se divise en deux écoles. Donc, il y a l'école de danse asiatique qui s'appelle Vents d'Asie. Aussi une page Facebook dédiée. Et on a aussi une page Facebook dédiée à notre partie polynésienne qui s'appelle Mata'i Tahiti. Pour tous ceux qui voudraient essayer les danses de Polynésie. Et puis, on a un site internet www.aux4vents.org. Tout attaché, mais il faut écrire le 4 en chiffres. Voilà.
Merci à toutes.
Merci beaucoup.
Merci
pour cette émission. Donc merci Célestine, Mario de Ravé et Océane et Émilie qui sont aussi avec nous dans ce studio. On vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.